Versailles des 22 et 22, c'est la Biennale internationale d'art urbain et aujourd'hui 8 octobre en public depuis la place Saint-Michel à Bordeaux. Au programme sur ce plateau radio, un focus sur la nuit des savoirs partagés dont la programmation démarre ce soir à 19h, une programmation qui devrait réévolutionner la ville jusqu'à 2h du matin. On aura aussi le plaisir d'accueillir sur ce plateau les étudiants et les enseignants de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Pour Partie Commune, c'est une activation de la rue Camille Sauvageau, une rue qui est située tout près d'ici, et plus globalement sur leur inscription dans la programmation de cette Biennale Evento. Mais tout de suite, on va commencer ce plateau avec la leçon de géographie absurde du professeur Garniaud.
Bonjour Xavier et bonjour à tous. Prenez vos stylos, ouvrez vos cahiers et moins de bruit dans le fond, sinon c'est l'interro Flash Express pour tout le monde. J'aimerais que nous abordions aujourd'hui la question du sens. Bordeaux, dont l'évidente étymologie nous rappelle constamment la situation de ville fluviale, est en effet traversée par de multiples questions de sens. Sens du courant de la Garonne d'abord. Sous l'influence de la marée montante, le courant de flot, et de la marée descendante, le courant dit de Jusant, J-U-S-A-N-T, le fleuve voit en effet régulièrement ses eaux changer de sens. Ses mouvements réguliers et les perturbations qui y sont associées sont responsables de cette coloration brune si particulière. Un peu plus loin, à Vert sur la Dordogne ou entre Langoiran et Podensac sur la Garonne, le Mascaret, M-A-S-C-A-R-E-T, cette vague issue de la rencontre entre l'onde de la marée montante et le courant du fleuve, le Mascaret donc est un autre phénomène naturel qui nous pose la question du sens, en mettant cette fois-ci en exergue la confrontation entre deux dynamiques inverses. Ces premières observations géographiques nous enseignent deux choses. D'une part, qu'un changement constant de direction peut être responsable d'un brouillage argileux à tendance vaseuse. Et d'autre part, que la confrontation frontale entre deux ondes opposées crée un phénomène certes dangereux, mais de toute beauté, et sur lequel les plus hardis se risqueront même à surfer. À ce stade, un focus étymologique est nécessaire. Que signifie donc sens ? Ou, dit autrement, quel est le sens du mot sens ? Eh bien, sens peut être un synonyme du terme direction ou encore orientation comme dans sens interdit. Il désigne également la signification comme dans ça n'a pas de sens, c'est insensé ou assez de cette absurde leçon. Ou la perception comme dans les cinq sens en éveil ou l'empire des sens. Mais pour rester décent, je m'en tiendrai au sens premier de sens pour signaler que le sens du mot direction peut prendre une toute autre direction et désigner notamment une action de domination hiérarchique du verbe diriger. Que le sens soit indirectement synonyme de la domination doit nous alerter, soit nous sensibiliser. Et c'est ce qui constitue l'essence de cette leçon et son assertion centrale. Quel que soit le sens, n'assénons pas l'insensé sans s'assurer d'un sincère souci d'incidence sociale. Voilà, un chemin bien tortueux pour cette leçon de géographie absurde. Mais l'étymologie et la toponymie ne sont-ils pas, après tout, de proches cousins ? Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez y aller et sortez dans le calme, s'il vous plaît.
Merci Jérémy, ne change pas de main, je sens que ça vient. On retrouve cette chronique de géographie absurde tous les jours sur nos plateaux, mais tout de suite, une page de publicité.
Fun, cool, refreshing, event time, one smooth breeze.
C'était un message publicitaire de la société Eventail qui nous sponsorise pour ces éventails d'Evento. La nuit tombe tôt à l'ouest, puisqu'en fait, la nuit où le crépuscule des savoirs partagés commencera aujourd'hui à 15h au marché des Douves avec un débat intitulé « Participation locale, une vision politique ». Nos envoyés spéciaux ou spécieux y seront certainement présents et sans doute nous livrerons demain un compte-rendu sonore sur ce qui aura été discuté. À 19h, lancement de cette nuit des savoirs partagés, proprement dite. Et pour nous en parler sur ce plateau, on reçoit Cécile Broca, qui est coordinatrice de cette programmation. Cécile Broca est accompagnée de Gabriel Mattei, compositeur, et on parlera avec lui du drapeau sonore de la Ré-Évolution. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cécile Broca, une nuit des savoirs partagés qui s'inscrit dans le chantier des savoirs partagés. Ce chantier des savoirs partagés, c'est un des grands axes de la programmation de cette édition 2011 d'Evento. Alors peut-être sur l'importance de cette dimension de partage dans cette programmation et puis dans cette nuit. Une nuit des savoirs partagés, qu'est-ce qui est en partage dans cette nuit, Cécile Broca?
Oh bien, je pense que l'idée de la nuit des savoirs partagés, c'est avant tout de réunir les gens autour d'un moment festif et convivial. Donc ce qu'il y a à partager, c'est la fête ce soir. Mais la fête, une idée de la fête et du partage autour des notions qui sont mises en jeu sur chacun des chantiers qui sont là, c'est-à-dire les savoirs. Le savoir comme des savoirs intangibles, des savoirs du quotidien qui sont à échanger, à partager, à mettre au travail ensemble. Donc l'idée de cette soirée, c'est de mettre en fait chacun des sites des chantiers des savoirs partagés et mettre en fait le quartier qui a été investi, puisque c'est l'idée de chacun de ces sites, c'est de travailler avec
des artistes qui travaillent avec des... le quartier Saint-Michel.
Oui, les sites qui sont situés sur le quartier de Saint-Michel d'un point de vue un peu large, puisque ça recoupe les Capucins, donc le marché des Capucins, la Halle des Douves et la place André Meunier, la rue Camille Sauvageau, avec l'école des Beaux-Arts qui investit un certain nombre de sites dans la rue Camille Sauvageau et l'espace même urbain de la rue. Et puis, un dernier projet à la Victoire aussi, qui est Cour de l'Argonne, qui a été menée en lien avec une galerie bordelaise qui s'appelle la galerie Tinbox et un projet qui s'appelle Exodo. Voilà, donc une extension de la galerie Tinbox qui est au 19 Cours de l'Argonne qui invite les gens à...
On reviendra tout à l'heure sur le détail de cette programmation. Éric Troussicot, bonjour. Tu es l'un des commissaires associés de cette édition 2011 d'Evento, une nuit des savoirs partagés qui met en résonance nocturne, l'ensemble du chantier des savoirs partagés. Alors peut-être rappeler quels sont les grands axes de ce chantier, l'esprit de ce chantier des savoirs partagés.
Alors déjà, on pourrait peut-être dire que sur cette nuit, l'idée, en fait, c'était de monter en puissance. C'était que chaque dispositif du chantier des savoirs partagés, c'est-à-dire... On ne va pas les énumérer parce qu'à chaque fois, c'est des notions de géographie qui sont affectives pour les Bordelais et un peu moins pour les extérieurs de la ville.
C'est donc les Marseillais qui nous écoutent
voilà,
aussi.
J'attendais que tu le dises. Non, l'idée, en fait, c'est que chaque dispositif du chantier des savoirs partagés propose ce soir une programmation qui soit un petit peu insolite et qui soit spécifique à cette nuit des savoirs partagés. L'idée, en fait, c'est de mettre un petit peu le quartier en ébullition, de mettre tout en écho. Et pour ce faire, en fait, on cherchait un petit peu à mettre en récit cette nuit des savoirs partagés. C'est pour ça qu'on a confié une mission au collectif Dispersion, dont j'aimerais un petit peu
reparler. On va en reparler, ouais. Si tu veux bien, tout à l'heure, plus spécifiquement sur cette dispersion qui aura lieu, je crois, très tard dans le courant de cette soirée. Cécile Broca, tu as évoqué à l'instant les lieux de cette programmation, des lieux qui sont affectés d'un fort enjeu en ce moment, d'un enjeu urbain, d'un enjeu de révolution peut-être, de rénovation en tout cas, de mutation certainement. Alors peut-être, comment est-ce que cette nuit des savoirs partagés met en résonance cette problématique vraiment spécifique de ce quartier ici, Saint-Michel, Halle des Douves, qui est l'objet, il faut bien le dire, d'intentions de rénovation très fortes, peut-être même décrites par certains habitants comme violentes. On parle beaucoup de gentrification. Est-ce que cette problématique-là, elle apparaît au cours des propositions de cette nuit des savoirs partagés? Cécile Broca.
Alors, je ne sais pas si on m'entend. Écoute, moi, je ne suis pas sûre que mon micro marche. Là. Il marche? D'accord. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois que c'est les projets en eux-mêmes. Sur toute la longueur de la manifestation qui mettent ça en question, qui questionnent ce qui se préfigure pour le quartier et que le moment de la nuit des savoirs partagés, il ne s'agit pas d'être à proprement parler sur ce sens-là, mais d'être dans un moment festif, convivial et partagé et que le quartier Saint-Michel invite finalement toute la ville à venir dans ce quartier, il n'y a pas forcément toutes les mixités culturelles et sociales dans ce quartier. Il y en a, mais donc du coup, c'est toute la ville qui est invitée là. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut dire que la question se pose du devenir du quartier, puisqu'il est au centre, finalement, d'une manifestation qui est celle de la ville de Bordeaux, quoi. Mais après, c'est quand même un moment de fête. Donc, je pense que je vais passer la parole à Gabi Farage,
qui est artiste, architecte, membre du collectif Le Bruit du Frigo et aussi un des commissaires d'Evento sur cette question, Gabi.
Oui, aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer comment un quartier sait recevoir. Tu vois, c'est le savoir qu'on partage là. Il va y avoir deux temps d'invitation spécifiques. C'est aujourd'hui et c'est la semaine prochaine, le 16 octobre. Cette semaine, c'est ce quartier étendu qui reçoit le reste de la ville et tous les autres visiteurs qui souhaitent venir. Et la semaine prochaine, ce sera le Grand Parc qui montrera comment ils savent recevoir. Et c'est aussi le moyen de faire une introduction à ce qui est développé depuis des mois et pendant les 10 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas en une journée et en une soirée qu'on va rentrer dans tous les sujets, dont celui que tu évoques. Ceci dit, à 15h, il y a le débat qui a lieu au grand déballage de la Halle des Douves. Ce débat, il va être inscrit dans les lignes de sens que tu évoques. C'est-à-dire, là, ça va être sur la présence associative dans la ville. Donc forcément, ça va parler de comment les engagements citoyens ont un impact d'orientation, d'innovation, voire de contre-pouvoir ou de proposition dans le cadre de la vie d'une ville. C'est inclus dans cette journée, tu vois. Mais c'est des mises en bouche parce que le travail, il se développe sur 10 jours. Donc effectivement, aujourd'hui, les gens qui viennent, on espère qu'ils vont prendre du plaisir à venir et que ça va leur donner envie de revenir pour d'autres moments. Voilà.
Les Bordelais connaissent bien ce quartier Saint-Michel, un quartier qui est le lieu d'un grand marché. On est d'ailleurs en ce moment même entouré de ce grand marché, un lieu qui est, je le disais, l'objet d'une intention de rénovation. Alors les Bordelais connaissent bien cette problématique, les Marseillais qui nous écoutent peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu pourrais, Gabi, nous resituer un petit peu les enjeux de la mutation de cette place Saint-Michel? Qu'est-ce qui se profile ici?
Bon, alors moi je suis pas promoteur du projet urbain en l'occurrence, que c'est pas moi qui travaille là-dessus. Moi ce que je peux dire pour que notamment des gens qui connaissent mal puissent situer. Mais quand tu dis que les Bordelais connaissent bien ce quartier, ce n'est pas vrai. C'est une partie des Bordelais connaissent bien ce quartier. Ce quartier, des gens continuent d'en parler avec des représentations, de représentations de personnes qui sont dans le oui-dire, qui sont dans la circulation de récits, mais qui ne sont pas dans l'expérience quotidienne d'un lieu. Voilà. Ce quartier-là, c'est un quartier, enfin ce périmètre qui est donc entre la gare, tout l'hypercentre de Bordeaux, c'est le lieu historique d'arrivée. C'est le lieu où les gens qui arrivent en train, qui arrivent par la route en migration, s'installent, commencent à rentrer dans cette ville et ensuite se diffusent vers d'autres endroits. Donc c'est un quartier qui porte les stigmates et qui est un repère pour les gens récurrents. Et ces stigmates, elles sont... ces stigmates d'arrivées culturelles différentes, elles se sont créolisées, elles ont aussi eu une influence sur des formes d'espace et de commerce et de choses qui existent dans la ville, dans d'autres quartiers, et c'est un poumon d'où ces choses sont parties. C'est à la fois un site, un grenier alimentaire de la ville, puisqu'il y a les marchés, mais c'est aussi un grenier alimentaire dans le sens où c'est un des lieux de brassage des recettes culinaires qui ensuite vont influencer le paysage gastronomique de la ville, tu vois. Mais c'est aussi valable pour d'autres aspects culturels, voilà.
Et est-ce que tout au long de l'année, indépendamment de cet événement qui est Evento, est-ce que c'est aussi un lieu de culture? Est-ce que c'est aussi un chaudron de culture?
C'est le deuxième aspect que j'allais dire. Donc il y a le côté alimentaire, on va dire, et l'autre nourriture, c'est la nourriture culturelle. C'est le lieu d'implantation de l'école des Beaux-Arts dans la ville, c'est le lieu du conservatoire, c'est le lieu du TNBA, du Théâtre National Bordeaux-Aquitaine. Et c'est aussi un lieu très très important d'implantation associative, donc des assos artistiques, des assos culturels, des assos d'action sociale, et évidemment beaucoup d'entre elles qui sont dans l'hybride, qui sont dans la traversée des choses, des assos confessionnels, des assos communautaires, et tout ce tissu associatif. On parle de l'association, mais ce qui est important, c'est que ce sont des groupes, quoi. Ce sont des groupes qui sont sans cesse présents, sans cesse traversés, qui font des transactions entre eux et qui influent énormément sur la vie quotidienne de cet endroit.
Cécile Broca, est-ce que ces associations sont présentes, seront présentes à l'occasion de cette nuit des savoirs partagés et sous quelle forme ?
Ah ben, elles seront tout particulièrement présentes, oui, puisqu'elles le sont dans les projets même de chacun des sites dont on a parlé tout à l'heure, qui sont investis par des artistes. Et en particulier, on peut parler de la Halle des Douves, puisque c'est le projet même de l'artiste de faire le grand déballage de la vie associative et au sein même de ce lieu, en le scénographiant et en invitant les associations à l'investir quotidiennement avec des temps différents. Donc un certain type d'association le matin, un certain type d'association l'après-midi, des activités qui sont proposées autour de ça. Et c'est dans la volonté de donner à voir ce que pourrait être ce lieu, puisqu'il est question qu'il soit investi par un collectif d'associations.
Alors là aussi, pour notamment nos auditeurs marseillais, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qu'est la Halle des Douves ?
C'est-à-dire
son histoire, quel est ce lieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est amené à l'investir ? Gabi Farage peut-être, Gabi.
Moi, je peux peut-être te aider Cécile là-dessus, parce que c'est moi qui suivis un peu toutes ces histoires, ces péripéties. Enfin, plus précisément, le projet de la Halle des Douves, c'est Judith Wielander qui a travaillé avec l'artiste Jan van Eysvik autour du projet. La Halle des Douves, c'est un ancien marché couvert près du marché qui fonctionne encore dit au Capucin. Cet ancien marché couvert, depuis plusieurs années, n'était plus affecté à des usages. Il a servi à stocker des vélos de la ville de Bordeaux pendant un temps, puis c'était fini. Il est positionné de façon assez intéressante dans le quartier parce qu'il est sur un périmètre où, tu vois, la place Saint-Michel, c'est un espace public majeur, c'est une très grande place à la croisée des chemins. Autour du marché des Capucins, on n'a pas vraiment d'espace public où on peut se poser de la même manière, et donc ce marché-là représente un potentiel. Et donc il fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un projet de maison des associations, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, un problème récurrent dans Bordeaux, ce sont les espaces de travail et les espaces de partage public pour l'activation associative, l'activation culturelle. Et donc, dans Saint-Michel, il y a eu un consensus de regroupement associatif autour d'un projet pour réaffecter la Halle des Douves. Ce groupement a réussi à convaincre la ville de Bordeaux de les suivre sur le projet. Donc là, une convergence entre la ville et ce collectif. Et Jeanne van Eysvik est arrivée pour a flashé sur cette histoire et s'est engagé avec ce collectif pour booster et pour sublimer la relation entre ces gens et l'espace autour. Donc là, il y a eu un agrégat beaucoup plus important que ce qu'il y avait à l'origine. Donc ils sont passés de, mettons, 20-30 à 60 associations impliquées, et sur un projet qui dépasse les significations initiales. C'est plus qu'un partage d'espace pour l'ouverture au public, c'est un projet dont on ne sait pas encore tous les contours et tout l'impact qu'il peut avoir dans le quartier.
Jeanne van Eysvik, qu'on recevra bien entendu sur ces plateaux éventail des Vinto, on l'enregistrera dimanche 9 et il sera donc diffusé le lendemain, lundi 10 à 11h, à la fois sur les ondes de la Grenouille et de Radio Campus Bordeaux. On va aborder dans quelques instants la programmation de cette nuit des savoirs partagés, mais tout de suite, une page de publicité.
Je monte. Je valide. Je monte. Je valide. Je remonte. Je lead. Je vate. Je mon lead. Mon jet de pi. Va, je lis. Va, monde. Je plie. Vont magie de je t'aile. J'y vais. Tonnage. J'affilie. Moi, me jonc. Va, molly de je veux. Et j'aime le Joven.
Éventail. Un léger courant d'air frais.
Une publicité de la société Éventail qui nous sponsorise sur ce plateau. On va aborder le détail, ou en tout cas l'esprit de la programmation de cette nuit des savoirs partagés. Et on va commencer avec Gabriel Mattei. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Tu es compositeur et tu vas tout à l'heure entamer cette nuit des savoirs partagés, ou du moins le crépuscule de la nuit des savoirs partagés, à 19h, avec un drapeau sonore. Alors peut-être si tu peux nous expliquer en quoi va consister ce drapeau sonore.
Alors le drapeau sonore, c'est un thème qui va sonner une fois par jour durant la période d'Evento à Bordeaux, qui va être joué par le carillon de la place Saint-Michel, l'un des instruments séculaires de la ville, que tout le monde connaît sans forcément faire toujours attention. Et donc l'idée était de faire prendre conscience à l'ensemble des personnes qui vont converger sur la place Saint-Michel de la présence de cet instrument. Et le meilleur moyen d'avoir conscience de l'instrument, c'est de faire la musique avec. Et donc voilà, je vais juste être intermédiaire pour initier un duo musical d'une petite dizaine de minutes entre la population et leur instrument.
un duo donc entre les cloches et puis des chanteurs. Qui va composer ce chœur qui répond au carillon?
J'espère toutes les personnes qui vont converger à 19h sur cette place. Je pense qu'elle peut contenir 20 000 personnes, donc jusqu'à 20-30 000 personnes, ça va être faisable. Et tout le monde, toutes les personnes qui sont curieuses, c'est vraiment très facile, c'est juste un geste musical simple, convivial, on va s'amuser pendant 10 minutes, c'est juste ça.
Alors en général, les carillons, ce sont des airs plutôt convenus, hein, des airs d'antan, souvent. Là, j'imagine que ta composition, elle va être beaucoup plus contemporaine. Qu'est-ce que tu as imaginé, un chant révolutionnaire ou ré-évolutionnaire pour faire plaisir à Michelangelo Pistoletto?
Alors, il y a des contraintes musicales qui guident un peu le choix de la réalisation musicale. J'ai voulu écrire juste un petit thème qui contraste avec le reste du répertoire programmé et qui est d'habitude joué par le carillon, à savoir un répertoire local, traditionnel, de folklore. Là, c'est un petit thème qui ressemble plus à un jingle de téléphone portable, mais qui permet en tout cas de créer un duo musical facile à chanter et divertissant pour les personnes qui vont être là. Voilà.
À 19h sur cette place Saint-Michel pour le lancement de cette nuit des savoirs partagés, le drapeau sonore. Cécile Broca, on va peut-être continuer à regarder d'un peu plus près la programmation de cette nuit. Tous les artistes du chantier des savoirs partagés sont donc présents dans cette programmation avec comme esprit la coopération, la participation, la transformation sociale. On a commencé à aborder ces notions-là tout à l'heure. Parmi les artistes ou groupes d'artistes qui sont présents, il y aura, je crois, Existe au Capucin avec... Autour d'une programmation musicale, je crois.
Oui, c'est ce qu'ils ont appelé une grande revue musicale, donc avec en commençant à 17h jusqu'à minuit et demi. Ce soir, ils vont, je pense, traverser tous les registres qu'ils peuvent imaginer de la musique, du bal musette à la Java, en passant par le hip-hop ou la techno minimale. Donc, ça sera... en quelque sorte, le dance floor de la soirée, de la nuit des savoirs partagés, et le lieu de réunion pour une ambiance musicale et festive. Enfin, pas le seul dance floor, parce que je vois qu'il y a en face de moi les représentants, ceux qui prendront la suite, en fait, du Café Pompier, avec deux DJ dont je me souviens très bien du nom, hein, qui s'appelle DJ Extravaganza. Hein, c'est une référence à...
Eh ben, on peut peut-être lui donner la parole pour présenter justement cette programmation au Café Pompier. Bonjour.
Bonjour. Donc, c'est le projet Eyafiol au Café Pompier. J'ai plus trop de voix, je suis désolé.
Parle plus près du micro.
On promet pour ce soir.
Oui, parce que c'est dance floor tous les soirs, visiblement. Quand
ouais,
vous voyez arriver.
Hier soir, on l'a bien donné. Et c'est joli quand même. Et donc, c'est ouais, à partir de 23h59, donc l'after de la revue des Capus. Et sinon, on a à 15h une grande conférence aussi, compte rendu du concert de Britney Spears. Et à 16h, une performance d'un collectif qui s'appelle Speech and What Archive, qui vont faire une performance de 16h à 16h30. Donc après, ben, vous pourrez enchaîner sur les Capus. Mais ne ratez pas la conférence du concert de Britney, à mon avis, ça va être drôle.
J'imagine. Peut-être juste deux mots pour l'ambiance musicale au Café Pompier, c'est comment? C'est un peu décalé? C'est quoi?
Je sais pas, on verra.
Faut y aller.
Voilà.
Faut y aller et c'est à partir de minuit, je crois.
À partir de 23h59.
À partir de 23h59, ça fait effectivement toute la différence. Autre projet musical, Cécile, c'est le projet de Soundress. C'est, je crois, un peu plus tôt, ça c'est 22h. Et notamment, on pourra y entendre Bang on a Can, place André Meunier. Je crois que ça va être plus exactement sur cette place, dans une petite cabane qui s'appelle la cabane à gratter. Et pour y entendre Music for Airports, alors un endroit assez curieux pour y entendre ce type de musique. Cécile.
D'abord, une petite rectification. Je pense que ce n'est pas dans la cabane à gratter, puisqu'il y a de nombreux sites qui se sont implantés sur la place André Meunier. Ce sera plutôt dans le kiosque à musique, ce qui paraît un peu plus logique,
qui s'appelle l'Assemblée. Ouais.
Et donc, quelle était la question?
Eh bien, de présenter Bang on a Can, cette proposition de Soundress, peut-être deux mots sur le collectif Soundress et sur ce qu'ils vont interpréter ce soir.
Alors, moi, je vais peut-être présenter le collectif Soundress.
Éric Troussicot.
Merci. C'est un collectif, en fait, c'est pas réellement un collectif musical, c'est plutôt un collectif qui organise un festival musical tous les ans, pendant l'été, à Lecce, dans le sud de l'Italie, et qui est composé de l'un des membres de Bang Onaken All-Star. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la présentation de Bang Onaken, mais l'idée de ce festival est assez intéressante. L'idée, c'est de faire converger des musiciens qui sont soit du registre de la musique contemporaine, soit du registre de la musique pop-rock, et bien sûr, tout le réservoir amateur du sud de l'Italie, autour de la tarentelle en particulier, et des musiques un petit peu folkloriques. Donc l'idée, c'est pendant une semaine d'organiser tous les jours des workshops qui donnent le soir droit à un spectacle. Un spectacle qui fait la part belle, je dirais, à la fois à l'improvisation et après, bien sûr, dans un deuxième temps, au registre, je dirais, légal des musiciens qui sont invités. Par exemple, cette année, étaient invités des gens comme Sufjan Stevens, Anna Calvi, voilà.
Alors ça commence ce soir, ça continue avec un ensemble de workshops et de concerts tout au long d'Evento. On peut retrouver bien entendu toute la programmation du festival Evento sur evento2011.com. Une autre proposition de cette nuit des savoirs partagés, c'est celle d'Exodo. C'est un apéritivo. Cécile Broca.
Bah, là encore, Exodo a mené un travail. En fait, ce qui va se passer ce soir, c'est tout simplement le vernissage de leur lieu. C'est ce qu'ils proposent très... Oui, Gabi, tu veux rajouter
Gabi Farage. Ouais. Là, ce soir, c'est le vernissage, pas du lieu, du travail qu'ils ont mené pendant des mois. Il y a la boutique Exodo, mais il y a tout un parcours dans le cours de l'Argonne. Et ce soir, c'est l'apéritif d'ouverture, de vernissage, où il y aura la présentation du film qui est issu de toute la collaboration de voisinage qu'ils ont eu entre des artistes qui sont venus collaborer avec Juan Aispitarte et Ibai Hernando Reina, qui ont été invités par Nadia Russell à être les auteurs porteurs du projet Exodo, et tout le voisinage, c'est-à-dire des habitants, des commerçants du cours de l'Argonne qui ont été collaborateurs, figurants de cette histoire un peu au long cours. Quoi. C'est un espèce de documentaire fiction, tu vois. Voilà. Et ça, c'est...
En deux mots, pour situer le cours de l'Argonne.
Le cours de l'Argonne, c'est un cours qui part de la place de la Victoire et qui est donc la place de la Victoire, c'est le début du parcours d'hypercentre dans Bordeaux, hein, de là par la rue Sainte-Catherine pour les Marseillais, la Canebière de Bordeaux, quoi. Et à l'opposé de cette Canebière, il y a le cours de l'Argonne qui va vers les universités, si tu veux. Voilà, donc c'est.
Un projet Exodo qui est un projet très inclusif, qui est destiné à un très large public, des adultes, des jeunes, des enfants.
Oui, oui. Enfin, c'est un projet qui a mené toute une série d'actions, d'ateliers avec le passant dans la rue, qui se retrouve impliqué dans des prises de vue, de manipulation, dans des ateliers dans les écoles. Enfin, il travaille avec l'association des commerçants, avec des commerçants. Enfin, c'est très difficile à décrire. D'ailleurs, la restitution, ce qu'ils exposent, est distribué sur un ensemble de boutiques inexploitées que Nadia a négocié avec des partenaires propriétaires pour le rendre accessible, qui deviendront peut-être des ateliers d'artistes après Evento. Et dans le cadre de ces boutiques-là, tu as une restitution de différentes étapes du processus de création. Donc voilà.
Et puis enfin, toujours dans cette nuit des savoirs partagés ce soir, une dispersion. C'est un projet nocturne. Ah, il est l'heure. Voilà, le carillon cette fois-ci n'est pas dans la forme composée par Gabriel Mattei, mais dans une forme peut-être plus classique, plus traditionnelle. Sur cette nuit de dispersion, Éric Troussicot.
Alors, dans un premier temps, il faudrait peut-être un petit peu revenir sur la nuit des savoirs partagés. L'idée, c'est en fait la commande initiale, c'était d'organiser une fête qui soit... selon Dixit de la mairie de Bordeaux, quelque chose de populaire. Donc nous, en fait, ça nous a posé question. Qu'est-ce que c'est qu'une fête? Et finalement, je vais peut-être un petit peu surprendre, mais je vais citer une métaphore agricole. L'idée, en fait, c'est de célébrer. Qu'est-ce que c'est une fête? On célèbre finalement la fin des moissons. Donc on félicite tout l'effort qui a servi à obtenir une récolte. Et une fête, c'est aussi un moment de récolte. Donc l'idée, en fait, voilà, c'était pour ça cette montée en puissance de tous les dispositifs du quartier. C'était une manière de célébrer cette récolte des savoirs partagés, des savoirs intangibles du quartier qu'a très bien expliqué Gabi tout à l'heure. Alors pour ce faire, il nous fallait mettre en récit cette nuit. Alors ce qui m'a beaucoup plu tout à l'heure, c'est que tu t'es servi un petit peu d'images wagnériennes, de crépuscule, de montée en puissance. Donc on s'est dit...
Je n'avais pas Wagner en tête, mais...
Non, mais moi, c'est moi qui l'ai dans l'idée, je vais t'expliquer pourquoi. On s'est dit, au moment où il fallait mettre en récit, chercher à mettre en récit cette soirée, pour lui donner son originalité et je dirais son indépendance propre, l'idée c'est pencher directement sur le collectif Dispersion. Le collectif Dispersion, c'est un jeune collectif bordelais qui est composé en fait de jeunes architectes et de jeunes artistes. Je vais citer quand même les noms parce qu'ils ne sont pas là. Lenny Bernet, hein, la plupart ils sont cinq. Lenny Bernet, Nicolas Gravitz, Jean-Baptiste Caro-Blant et puis Iris Godbille. Voilà. Et donc ils ont une capacité de mobilisation extraordinaire. Ils font une belle part justement à ce qu'on pourrait appeler un renouveau de l'art total aujourd'hui. Et ils présentifient en fait tout leur système, tout leur dispositif, c'est bien sûr à base de performance, mais c'est de jouer sur l'iconologie un peu de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, c'est Abby Warburg. C'est tout ce rapport entre l'image et le récit, et comment on présentifie et comment on articule des images, et surtout comment on joue avec, dans un jeu de dérision. Donc là, l'idée ce soir, pour eux, c'est un projet qui tourne autour de quatre icônes. Hein, les quatre icônes, je vais citer le titre du projet, c'est donc Prism, Sliders, Hermès, Aphrodite, Club Sandwich. Donc dans cette idée de dispositif, ils vont venir perturber à différents moments, cette nuit, faire des interventions un petit peu musclées par moment autour de ces quatre icônes que je viens de citer qui émanent du titre. Et ils vont jouer sur ce rapport qui nous intéresse beaucoup sur la fête, sur l'idée de dévotion et de dévoration. Hein, il y a les deux principes. Et ce travail, en fait, il a été mené, je peux vous raconter la petite histoire.
En deux mots,
très rapidement, c'est tout simplement un vendeur de gaufres à Biscarrosse. Un stand de gaufres à Biscarrosse, qu'ils connaissent très bien, qu'ils pratiquent tous les ans, et qui est un stand extraordinaire, qui propose bien sûr à manger des crêpes et des gaufres, mais qui met en scène justement cette idée de dévoration, c'est-à-dire cette idée à la fois de dévotion qu'on a envers la nourriture, et cette idée de spectacularisation, je dirais, presque débile de la nourriture. Voilà, donc ça sera, ils vont articuler ces thèmes-là.
Pour conclure sur cette nuit des savoirs partagés, on l'a vu tout à l'heure qu'elle était destinée à un très large public, Gabi l'a rappelé, public de jeunes, moins jeunes, mais aussi, éventuellement, un public non humain.
Oui, parce qu'on a oublié d'en parler, donc il y a une grande manifestation, une parade qui est organisée. Ça démarre à quelle heure, Cécile ?
À 17h30.
17h30, voilà. De 14h à 17h30, les parents, les enfants, les abstinents sont invités à... sur la place André Meunier pour préparer une espèce d'intrusion de non-humains, donc d'animaux et de végétaux dans la ville. Donc c'est une espèce de procession masquée. Donc il y a des masques, des sérigraphies qui ont été tirées pour que les gens fabriquent leur propre chimère avec bureau d'études, ouze sur la place. Donc là c'est plutôt tout public, famille, et puis c'est une fanfare qui va emballer tout le monde. Voilà.
Les non-humains ont peut-être des leçons à nous donner sur l'organisation sociale et les modalités de la révolution.
On espère que la fin de soirée sera très, très, très non-humaine.
Il s'agit d'abolir les catégories entre le genre animal, le genre humain et végétal.
Contre ce qu'on appelle le spécisme, là, le racisme entre les espèces, l'espèce
Absolument.
Humaine ou les autres espèces. On va dans quelques instants recevoir sur ce plateau les étudiants et les enseignants de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux pour leur projet Partie commune. Mais pour l'introduire, on écoute tout de suite un reportage enregistré hier, rue Camille Sauvageau, une médiatrice qui nous proposait une visite flash.
Et donc l'idée, c'est de voir ces espaces d'une autre manière. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réutilisé le bois de la passerelle en fait de 2009. Je ne sais pas si vous aviez vu à l'époque.
Ouais. On a entendu parler.
Pour Evento. Et donc ils ont réutilisé cette passerelle, enfin le bois de la passerelle, pour faire ces petits modules en fait, qui peuvent être multi-usages. On peut s'asseoir dessus, on peut juste discuter, on peut discuter avec son voisin. Donc l'idée, c'est vraiment de se réapproprier la rue, aller dans la rue, s'asseoir un peu plus, voilà. Découvrir d'une autre manière un peu comment la rue est faite, s'asseoir, prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe autour. Donc voilà, ça c'est un des projets des étudiants. Donc, si vous voulez, on peut continuer et voir d'autres projets qui ont été proposés. Et c'est vraiment l'idée d'investir l'espace public, être dans la rue en fait.
C'est des étudiants en art.
C'est les étudiants des Beaux-Arts, en fait. Et il y a eu deux workshops avec Michelangelo Pistoletto il y a quelques mois. Et ils ont essayé de penser un peu avec le concept d'Evento, de révolution urbaine, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour cette rue. Parce qu'en fait, l'école des Beaux-Arts, elle est en bas, là, sur la place du TNBA, la place Sainte-Croix. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans la rue et proposer quelque chose dans l'espace public avec des solutions diverses.
Et pourquoi cette rue-là, il y a une histoire par rapport à cette rue, elle s'est auto-désignée, parce que là du coup je comprends, il y a une histoire, une vraie histoire avec la passerelle.
Déjà il y avait l'idée des chantiers des savoirs partagés qui investissent beaucoup l'espace Saint-Michel, Sainte-Croix, Victoire, donc on était dans ce périmètre. Après l'école des Beaux-Arts, elle est au bout de la rue, donc sur la place Sainte-Croix. Et cette rue, elle relie Sainte-Croix et Saint-Michel, donc deux endroits, deux places très importantes du quartier. Donc ces deux places, c'est un peu le lien en fait, c'est vraiment l'axe que prennent tous les étudiants, que ce soit pour l'IUT, pour les Beaux-Arts, c'est vraiment l'axe qu'ils prennent et qu'ils vivent tous les jours finalement. Donc ça avait du sens de s'investir de ces lieux, d'y aller, de proposer. Et le facteur aussi, c'est que dans cette rue, en fait, il y a beaucoup de locaux qui sont un peu désaffectés. Mmh. Donc, il y a beaucoup de locaux qui sont laissés à l'abandon. Il y a des fonds de commerce qui ne sont pas repris. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire quelque chose de ces fonds de commerce, proposer une nouvelle utilité, des nouveaux usages par l'art et aussi par de nouvelles pratiques artistiques.
Donc, ça, voilà. C'est une visée à long terme. Enfin, y a une...
Après, là, c'est vraiment pour l'événement. Et après, ça pose des questions aussi, parce que le quartier Saint-Michel, c'est un quartier en requalification. Donc c'est un lieu où il va y avoir beaucoup de travaux dans les prochaines années, avec un nouveau projet architectural très un peu controversé quand même dans le quartier. Et donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de ce patrimoine bâti, qu'est-ce qu'on peut proposer ici comme solution en fait à l'évolution du quartier. Donc voilà, c'est aussi des pistes de réflexion. En fait.
Un reportage enregistré hier par Nelly Fleischer et Julie Demuer dans la rue Camille Sauvageau, qui est investie par le projet Partie Commune. On reçoit sur ce plateau les étudiants et les enseignants des Beaux-Arts, Jean-Philippe Algan notamment. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Alors, on a entendu dans ce petit son que cette rue Camille Sauvageau, elle est l'objet d'un nouveau projet urbain qui est très controversé dans ce quartier. Alors, est-ce que la présence des étudiants des Beaux-Arts, des projets de parties communes, prend en compte cette dimension de controverse urbaine dans la rue, de son devenir ? Alors, Jean-Philippe Algan.
Je viens de découvrir l'interview au moment même, là, et il y a déjà beaucoup fait allusion à l'importance de la rue par rapport à l'école des Beaux-Arts, à la situation du quartier, puisque de par sa situation géographique, l'école est connectée vraiment au quartier Saint-Michel par la rue. Beaucoup d'étudiants y vivent. Et le fait de voir cette rue tomber en déshérence progressivement a rejoint une idée qui était dans la tête de la directrice de l'école des Beaux-Arts, Guadalupe Echevarria, de longue date, un projet qui n'avait jamais vu le jour, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut réouvrir des commerces dans cette rue? Comment est-ce qu'on peut y réinjecter de l'activité? Alors, il a été fait allusion dans l'interview au workshop donné à plusieurs reprises par Michelangelo Pistoletto à l'école. Et c'est vrai que ce moment-là, au mois de mars, a servi de cristallisation a été déclencheur des projets qui, après, ont germé et sont aujourd'hui installés dans la rue. Alors, comment on s'en est servi ? Il était clair que prendre en compte l'échelle de cette rue qui fait plus de 300 mètres de long, demander vraiment à y réfléchir à deux fois pour proposer autre chose qui soit un simple déballage de projets dans l'espace public. Donc on a procédé, Jean-Charles Zébo, qui est architecte et designer enseignant à l'école, qui est présent à mes côtés sur ce plateau, on a commencé par réfléchir aux commerces vacants qui pouvaient être réactivés, avec lesquels on pouvait faire quelque chose qui ne soit pas simplement créer des galeries ou des espaces d'exposition, mais plutôt des lieux de production qui permettent aussi une relation avec les riverains et c'est aussi une réflexion sur la place de jeunes artistes, puisque l'école forme de jeunes artistes et designers dans l'espace public, dans la cité. Et alors ça, et puis prendre en compte le rythme de l'activité propre à la rue. Ça nous semblait absolument important de respecter ces rythmes diurnes et nocturnes. Bon, ça c'était déjà une chose. Et puis la seconde, c'était de vraiment se dire bon, ok, soit on a déjà les intérieurs, c'est un élément, mais vu l'échelle de la rue, c'est absolument insuffisant. Donc il fallait vraiment construire un squelette proprement dit, qui puisse s'activer autant le jour qu'à la tombée du jour et à la nuit, pour, reproposer, rescénariser un petit peu cette rue, et aussi permettre de porter les projets. Et là, je pense que je vais donner la parole à
Jean-Charles, ça me paraît indispensable. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Alors sur l'architecture de cette rue, telle qu'elle est aujourd'hui, et puis sur ce que vous y avez réalisé, sur la réflexion que vous avez menée, à la fois sur ce qui est produit ici de manière événementielle pour Evento, et peut-être ce qui pourrait être durable dans cette rue.
Alors, moi, je n'ai pas réalisé vraiment une œuvre architecturale dans cette rue. Hein. On va laisser très très vite la parole aux étudiants. En fait, on a essayé d'accompagner une pensée qui s'est développée autour du dessin de cette rue. Enfin, je veux reparler du dessin de cette rue, parce que les gens qui ne la connaissent pas ne peuvent pas imaginer une courbe très belle, une courbe sinueuse qui va de la place Saint-Michel à la place Sainte-Croix. Donc un parcours fréquenté très très souvent par les étudiants, les enseignants de l'école des Beaux-Arts. Et surtout une rue qui a perdu sa vitalité. Donc le fait d'introduire des activités artistiques dans les commerces vacants n'a été possible qu'à partir du moment où on a mis en place un dispositif urbain. Alors le dispositif urbain qui a été mis en place, je vais le dire très très clairement, n'est pas un dispositif autoritaire. C'est-à-dire qu'on l'installe pour une dizaine de jours, après on l'enlève. Après il peut y avoir l'idée réintroduire ces expériences dans les rues, mais nous on n'est pas en train de faire un projet d'aménagement urbain ou de proposer un projet variant par rapport au projet qui existe en ce moment, qu'on ne connaît pas. Très franchement. Non, nous, en fait, c'était l'idée de sortir de l'école et d'installer notre activité dans la rue, un petit peu comme si on était dans un intérieur urbain. Donc, l'image qu'on pouvait avoir, c'est peut-être une image d'un hangar à ciel ouvert. Vous voyez ce que je veux dire ? Un grand chai qui fait 300 mètres de long, 6 mètres de large, et composé une intervention dans cet intérieur. Et quand on fait ça, en fait, on essaie d'oublier au départ toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire les voitures, les poubelles, les gens qui passent avec des scooters, les gens qui passent avec des poussettes. On oublie un petit peu tout ça pour proposer des temps d'arrêt, des temps de mouvement. Bon, je vous invite à venir voir cette rue, mais pas une seule fois. Comme disait Jean-Philippe, le jour, la nuit, à la tombée de la nuit, parce qu'elle est tout le temps avec un dessin différent. C'est-à-dire que les activités qui sont proposées et les projets des étudiants varient à longueur de journée.
Et avec des installations qui sont permanentes, je pense par exemple à la terrasse la plus longue du monde, et qui est assez amusante puisqu'elle recycle, je crois, une partie des matériaux qui avaient servi à construire lors de l'édition 2009 d'Evento, la passerelle de Kawamata, donc un réemploi d'une édition d'Evento à l'autre, peut-être pour nous parler de cette terrasse. Bonjour.
Bonjour.
Peux-tu te présenter ?
Je suis Coraline, une des étudiantes qui porte le projet de la terrasse la plus longue du monde, aux côtés d'Angélique, Carlos et Charlène.
Alors quelques mots sur ce projet, au-delà du Guinness Book of Records, d'avoir la terrasse la plus longue du monde, j'imagine qu'il se passe des choses sur cette terrasse, que vous l'avez conçue d'une manière tout à fait particulière.
Déjà, premièrement, je reviens un peu sur ce que disaient Jean-Philippe et Jean-Charles, sur le fait qu'on a essayé de prendre en compte la rue dans sa totalité, dans sa longueur, dans sa globalité. Et on a choisi d'installer des modules en bois qui effectivement sont construits à partir de la passerelle Kawamata de 2009. Ces modules en bois ressemblent à des bancs et viennent s'accrocher aux potelets qui délimitent la chaussée du trottoir, symbole d'interdiction du stationnement des véhicules, qui viennent s'ancrer à ces potelets-là et qui s'ancrent sur toute la longueur de la rue, de manière à accentuer le dessin de la rue, la perspective qu'on peut avoir, et créer des structures différentes, donc qui peuvent monter en hauteur. On a essayé de jouer avec ces modules en bois un peu sur l'idée du Tetris, avec comme ça, ces modules s'assemblent et créent donc ces structures dont je viens de parler.
Un des projets parmi de très nombreux projets donc dans cette rue, imaginé par les étudiants de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, est-ce qu'il vous semble à vous, étudiants, qu'il y a un esprit commun à l'ensemble de ces projets? Est-ce que chacun est intervenu de manière individuelle avec son projet ou le projet d'un groupe? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un esprit commun à cet ensemble partie commune? Bah, peut-être puisque tu as le micro, au nom des autres, mais ils peuvent te corriger si jamais ils ne sont pas d'accord.
Oui, non, je pense que c'est plutôt, c'est pas un plus un projet, c'est vraiment un projet commun. Et c'est pour ça qu'aussi les projets se jouent ensemble et peuvent avoir des liens et des viennent se confronter et donc s'augmenter, parce que je pense que il n'y aurait eu qu'un seul de ces projets présents dans la rue, ça n'aurait pas fonctionné. C'est vraiment le projet de tous les étudiants et tous les projets proposés aussi avec les enseignants qui...
Alors quel regard vous portez, vous justement, étudiants de l'École d'art de Bordeaux, sur Evento, un biennale d'art urbain? Une biennale qui avait été un petit peu critiquée en 2009, il faut bien le dire. En 2011, il est peut-être un peu tôt pour en faire un bilan, puisque là, elle vient à peine de commencer. Mais quel regard vous portez sur Evento?
Je me présente, Romain Juan. Quel regard on porte sur Evento?
Vous avez le droit de dire le fond de votre pensée.
Hein. Oui, oui, oui. C'est le problème, peut-être.
Ben, dis ce que tu penses. Hein.
Oui, oui. Ben, Evento, comme
mais dis-le bien dans le micro.
Oui, d'accord. Comme toutes les manifestations d'art contemporain, et Evento en particulier, a eu la volonté d'Alain Juppé, ça a été de faire quelque chose proche des gens. Je pense que quand on essaye de faire de l'art proche des gens, on arrive à un simulacre de la proximité. Et on essaye de faire des choses qui touchent le public, alors qu'on sait, avec des notions communes telles que l'écologie en ce moment, qui est vachement présente à Evento, telles que les associations, tout ça. Mais ça fait un peu vitrine de la part dans la Juppé. Ça fait un peu vitrine parce qu'il a invité des artistes à venir travailler pendant 6 mois. Bon, on ne les a pas spécialement vus, ces artistes-là. Que cette vitrine, elle est là aussi pour les associations. On sait le nombre d'associations qui, de bars associatifs, tout ça, qui ont fermé dans le quartier, dû à la mairie. Donc ça me paraît être un projet un peu, oui, voilà, comme je disais, vitrine et... Et voilà, et je pense que qu'on fait beaucoup de choses. Voilà, les places écologiques, c'est bien beau, mais ça, ce n'est qu'un temps. Ça montre des choses, mais ce n'est pas réel finalement. Ce n'est pas réel. On essaye de faire de l'art qui ressemble au réel, mais ça ne l'est pas. On essaye de faire de l'art qui touche les gens, mais qui n'est même pas de l'art les trois quarts du temps, et que les gens ne comprennent pas sans une bonne médiation.
Un autre regard ?
Oui, Simon Ressac, ancien étudiant à l'École des Beaux-Arts, qui est sur le projet Partie Commune donc, de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Evento, non, c'est quand même une chance pour nous, artistes de... On va commencer par un point positif. point positif. C'est quand même une chance pour nous, étudiants, pour l'École des Beaux-Arts, notamment pour les professeurs, d'amener les étudiants à réfléchir justement à ces questions qui ont été évoquées, s'introduire dans une rue, créer un parcours comme ça. Je crois que c'est l'importance de tous ces, de ces œuvres multiples, c'est créer un parcours. Créer, et en effet, je pense que donc, c'est une chance, Evento. Et après, ça a été à nous, en tant qu'invités, à réfléchir à ces questions posées de la rue. Et je pense que l'École des Beaux-Arts peut être assez fière de son projet mené par ses professeurs. Et, moi, je suis malheureusement fermé 8 heures par jour dans une cage, donc je ne peux pas voir le reste d'Evento, donc je ne peux pas avoir un avis critique sur le reste d'Evento à part de la communication. Voilà, après nous, enfin je vais parler de moi, vu que j'ai le micro. Nous, avec Romain Jouan, Marine Julier, qui faisons le projet 4x8, 24, 3x8, 24, ça sera mieux, oui, je suis nul en maths. On a vraiment, là, pour le coup, je crois, réussi notre ambition, qui était de rencontrer le public. On ne parle pas. On ne parle pas au public, mais le public parle énormément. Et on a réussi à faire une œuvre qui se voulait la plus directe possible, la plus impactante au niveau visuel. D'ailleurs, les gens restent la plupart du temps une minute. Mais dans cette une minute où ils restent, il y a vraiment un dialogue qui s'engage avec le public. Et ça engage vraiment des réactions. Et en ça, c'est une, je pense, et j'espère que Evento, son projet était plus ou moins politique, je pense que nous, on a pas mal réussi de ce point de vue-là, de provoquer une réaction. Ouais.
Un dialogue, des réactions, après tout, c'est pas plus mal hein, dans cette perspective de révolution, réévolution urbaine, qui est au moins du débat et du dialogue. Ça n'était que quelques-uns des projets de cet ensemble Parties communes proposé par l'École des Beaux-Arts, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de ces propositions sur le site partiescommunes.cc. Et maintenant, pour clore cette émission, un écho coco d'Evento Toto, Christophe Modica, artiste sonore, remixe chaque jour les sons des lieux et parfois même de nos plateaux. On écoute sa proposition d'aujourd'hui.
Evento Toto. Evento Toto.
Avec eux, comment ils peuvent faire quelque chose qui soit constructif, qui ait du sens, qui ait une valeur à la fois poétique et politique.
Even.
Quotidien, ce qu'on a appelé la révolution urbaine, c'est-à-dire un meilleur vivre ensemble.
À quels enjeux géographiques Evento renvoie-t-il ?
Deux mots pour conclure cette émission, Jean-Philippe Algan.
Oui, je voudrais rappeler simplement quelques bonnes adresses qui figurent dans le cadre de l'intervention partie commune rue Camille Sauvageau, à savoir la librairie imprimerie du matin Publication Studio qui est installée au numéro 23, qui ouvre de 7h à 15h. L'endroit des chimères qui est un lieu de projection vidéo dont les chimères s'évadent à la nuit tombée, c'est au 47. Le projet 3x8-24 dont nous avons entendu parler, qui est installé au numéro 59 de la rue, avec devant sa devanture les Et si font l'espadon, un projet de Vincent Schneff. Et l'agence Todd, une agence de télé-excursion virtuelle à Istanbul, au numéro 73. Et évidemment, toute la proposition, les lumières et les miroirs d'eau.
Tous les projets à retrouver sur le site d'Evento et sur le site de Parties Communes. Rendez-vous demain à 11h sur les ondes D38 et de Campus Bordeaux. On sera sur le marché des douves.